Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour un magazine consacré à la maladie de Parkinson aujourd'hui dans le cadre de Campus Il Info. Nous sommes, si tout va bien, en compagnie du professeur David DeVos, professeur de pharmacologie médicale et neurologue à l'Université de Lille, INSERM, CHU de Lille, en principe, qui est avec nous. Bonjour monsieur DeVos.
Bonjour.
Voilà, donc on va faire l'émission avec vous aujourd'hui, un entretien sur cette maladie dont on entend beaucoup parler, dont on connaît peut-être moins de façon très fine les symptômes et aussi les traitements, et une maladie qui inquiète en général. Est-ce que c'est fondé d'abord cette inquiétude, monsieur DeVos ?
Oui, c'est tout à fait fondé. Il y a, on estime, à peu près 160 000 personnes en France, au moins, qui ont une maladie de Parkinson, plusieurs millions de personnes dans le monde. Et c'est une maladie qui est effectivement très handicapante. On connaît ses symptômes de handicap moteur, enfin en tout cas dans la population générale, on sait que c'est une maladie du tremblement. Mais en fait, ce n'est qu'un tout petit problème parmi la multitude de problèmes que peuvent avoir ces patients.
Alors, est-ce que toutes les personnes qui ont cette maladie de Parkinson ont des tremblements, ou bien c'est une des caractéristiques, mais il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui peuvent déterminer cette maladie ?
Ben, vous avez tout à fait raison. En fait, on estime qu'à peu près 70% des personnes ont un tremblement, mais en fait, il n'y en a que très peu qui sont vraiment gênés par le tremblement. En fait, la maladie, c'est surtout une maladie de lenteur et de raideur. Mais sur le plan moteur, donc on marche et on se déplace plus lentement et on est plus raide. C'est une maladie qui peut donner chez certaines personnes des douleurs et c'est une maladie qu'on dit de l'automaticité, c'est-à-dire que tous les mouvements automatiques qu'on fait au quotidien pour rétablir son équilibre, pour marcher, se déplacer, communiquer, eh bien se fait de manière plus lente, plus hasardeuse, moins bonne. Mais il y a aussi tout un cortège de signes qui ne sont pas des signes moteurs et qui empoisonnent l'existence des personnes, à savoir l'anxiété, la dépression, le manque de motivation, des douleurs et tout un cortège d'autres signes qui seraient très longs à énumérer, mais qui peuvent être variables d'une personne à l'autre. En tout cas, il est important de comprendre qu'il n'y a pas une maladie, mais des maladies, et que finalement chaque personne maladie un peu particulière.
Donc, Parkinson, c'est quoi ? C'est une maladie, un syndrome, quelque chose de génétique aussi, peut-être ?
Alors oui, c'est toujours compliqué pour expliquer à la population générale ce qu'est une maladie. Une maladie, c'est un ensemble de symptômes qui font poser un diagnostic, mais derrière ce diagnostic, on veut connaître les causes, et puis surtout le pronostic, comment ça va évoluer. Et là, ça peut être très variable d'une personne à l'autre. Alors, on dit qu'on ne sait pas la cause du Parkinson, mais en fait, si, on connaît beaucoup de causes au Parkinson. On sait, par exemple, que les pesticides, les métaux lourds, les herbicides, le paraquat qui était sur les bananes du Guadeloupe, la roténone qui était encore sur les pommes bio il y a quelques années, peuvent donner directement le Parkinson. Mais on estime que chaque personne a une centaine de variables qui vont être différentes d'une personne à l'autre et qui vont conduire à la maladie. Et donc, qui comprennent à la fois des facteurs de l'environnement, mais aussi des facteurs génétiques.
Est-ce que des personnes différentes dans les mêmes circonstances peuvent ne pas avoir ou avoir cette maladie ?
Exemple, on se met dans un petit village tout entouré de champs sur lequel les agriculteurs vont épandre en permanence de très nombreux pesticides. Eh bien, effectivement, dans le village, sur par exemple 50 personnes, il n'y en a que 4, 5 ou 6 qui vont faire une maladie de Parkinson. Parce que eux vont peut-être moins vite détoxifier les pesticides, eux vont avoir plus de risques autres génétiques et qui vont donc faire que ceux-là vont faire un Parkinson et pas d'autres. D'autres vont peut-être faire un cancer et non pas un Parkinson.
On associe souvent la maladie de Parkinson à l'âge. Est-ce que c'est du fait de facteurs, ce que vous venez de citer, hein, des facteurs d'environnement qui s'accumulent au fil du temps, que forcément avec l'âge, c'est là que la maladie intervient, ou alors que c'est programmé, on va dire, génétiquement, qu'à partir d'un certain âge, la maladie peut intervenir, je sais pas, on va dire vers 50 ou 60 ans?
Eh bien, les deux, c'est tout à fait pertinent. En fait, plus on vieillit, moins on a de neurones. et donc plus on va passer sous un seuil à partir duquel la maladie se déclare. En fait, il faut expliquer aux auditeurs que la maladie de Parkinson, c'est une dégénérescence, c'est-à-dire une perte des neurones dans une zone du cerveau qu'on appelle la substance noire, qui fabrique normalement la dopamine. Et donc, cette zone du cerveau qui dégénère, eh bien forcément, on a moins de neurones dans cette zone du cerveau si on a 80 ans que si on a 15 ans. Et donc, forcément, l'âge est le premier facteur favorisant. Mais il explique aussi, parce qu'on va cumuler des toxiques de l'environnement tout au long de sa vie, mais aussi il peut être programmé génétiquement. Et là, pour le coup, on peut parfois avoir des personnes qui ont 30 ans, qui ont la maladie de Parkinson, 28 ans, 40 ans, et tous les âges peuvent être confrontés à la maladie de Parkinson. Mais il est vrai qu'à 100 ans, on peut dire qu'on a pratiquement une personne sur deux ou sur trois peuvent avoir le Parkinson.
Donc, évidemment, la disparition des neurones est en partie programmée par l'âge, on peut dire ça comme ça. Est-ce que les neurones concernés par justement cette maladie qui se déclenche, est-ce qu'on peut éventuellement freiner la diminution de la perte des neurones, ou voire même en constituer de nouveaux dans certaines zones, peut-être pas la même, mais limitrophes, qui pourraient être utiles également pour éviter ou atténuer cette maladie?
Eh bien oui, c'est tout à fait l'enjeu des recherches actuelles, c'est-à-dire de développer des traitements neuroprotecteurs ou neurorestaurateurs. C'est-à-dire que neuroprotecteurs, comme le nom l'indique, et on peut le comprendre aisément, c'est d'avoir des molécules qu'on va prendre par la bouche ou qu'on va injecter dans le cerveau ou dans le corps, et qui vont protéger ces neurones et leur permettre de passer au-dessus de tous les dysfonctions qui peuvent conduire à leur mort programmée. On peut aussi avoir des traitements neurorestaurateurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de compenser, d'amener des nouveaux neurones. Alors, les greffes de neurones ont été faites, mais le problème, c'est que lorsqu'on met des bébés neurones dans le cerveau d'une personne qui a une maladie de Parkinson, eh bien, ces neurones sont très vite détruits par le processus pathologique en cours. Et donc, il est pour l'instant préférable de trouver des traitements qui ralentissent l'évolution avant d'envisager des traitements qui puissent restaurer complètement les fonctions de ces neurones.
Au-delà des traitements, qui ont sans doute des effets aussi nuisibles dont on parlera après, est-ce qu'il y a aussi des façons de fonctionner, de vivre, peut-être de travailler ou de réfléchir, qui permettent aux neurones de s'auto-entretenir ou peut-être de se développer dans certains domaines pour compenser un petit peu l'absence de ceux qui se dégradent?
Oui, le cerveau est plastique. Hein, depuis la jeune enfance, où l'on va justement utiliser cette plasticité du cerveau pour apprendre, comprendre, se développer. Mais un peu plus tard, le cerveau peut aussi compenser certains déficits, et donc certains neurones manquants peuvent la charge de ces neurones manquants peuvent être pris par d'autres neurones. Et donc le fait de rester très actif au plan physique, au plan intellectuel, est certainement l'une des clés pour vieillir mieux et pour limiter l'impact de la maladie. On le prescrit sans cesse aux patients de rester actif, de marcher quotidiennement, de rester actif intellectuellement, mais aussi émotionnellement, de sortir, d'être en relation avec autrui. Tout cela va forcément aider considérablement au cerveau à se maintenir en meilleure santé. Ensuite, il y a de très nombreux conseils qu'on peut administrer aisément, comme le maintien des facteurs de risque vasculaires, tels que l'hypertension artérielle, le diabète. Ces facteurs-là vont aussi avoir un impact important. Certains médicaments peuvent être dangereux pour le cerveau également. S'agissant de la nutrition, on sait que c'est la première des médecines, mais là, beaucoup de choses sont dites et beaucoup de bêtises aussi, sans qu'on ait véritablement pour l'instant des clés précises sur le régime alimentaire qui serait idéal. Probablement parce que c'est très compliqué, ça demande des années, et parce que ça peut être variable d'une personne à l'autre.
C'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent conduire à cette maladie, et sûrement des facteurs croisés, que c'est difficile d'isoler exactement pour chaque individu les risques encourus en faisant telle ou telle chose. Pour autant, est-ce que l'activité, vous parliez d'activité cérébrale, puisque les neurones sont dans le cerveau, est-ce que les activités cérébrales, peut-être lesquelles, peuvent amener les personnes à résister davantage?
Bien, comme je le disais à l'instant, par exemple la marche à pied ou de faire des activités sportives qui procurent du plaisir, des activités intellectuelles qui procurent du plaisir, sont forcément des activités qui vont permettre à la personne de se maintenir en bien meilleure santé. On voit des gens qui n'ont jamais fait d'activités sportives, qui n'ont jamais marché, bien à 70 ans, ne sont plus capables de marcher, ont mal au dos, sont voûtés, ils ne sont pas de... Et tout ça, ce sont des conséquences finalement d'une mauvaise hygiène de vie. Mmh. Et donc c'est finalement beaucoup de bon sens en fait à apporter. Alors bien évidemment, il ne faut pas non plus penser que parce qu'on a une bonne hygiène de vie, on ne sera pas malade. Malheureusement, la vie peut être injuste. Mmh. Mais en tout cas, ça peut contribuer favorablement à se maintenir en meilleure forme. Mmh.
Donc le moral, c'est important.
C'est très important de cultiver le bon moral, bien sûr. Sous réserve qu'on n'ait pas une maladie de l'humeur qui nous empêche, même si on le voulait, de pouvoir être de bonne humeur. Et ça, c'est donc la dépression. Dépression, d'ailleurs, qui est très fréquente. Elle est estimée qu'il y a à peu près 20% de personnes qui ont une dépression et qui, dans la maladie de Parkinson.
Est-ce que la France, qui est un grand pays en termes de médecine, de tranquillisants, etc., par rapport à d'autres pays, la possibilité de voir l'effet de ces drogues, on va dire, hein, qui sont données souvent assez largement dans nos régions pour soigner les problèmes d'humeur ou les problèmes de, on dit, dépression. Hein. Est-ce que par rapport à d'autres pays, on voit une différence? Est-ce que ces médicaments peuvent causer d'autres, parmi les effets, hein, un développement aussi de la maladie de Parkinson ensuite?
Alors c'est une question qui est très largement posée et qui est au cœur de débats houleux, mais il est clair que souvent les personnes se trompent. Hein. On a vu par exemple avec les benzodiazépines et l'Alzheimer qu'il y avait plus de personnes qui vont ensuite développer un Alzheimer qui ont pris des benzodiazépines. Mais là, il y a un biais d'analyse qui est fondamental à comprendre, c'est que si les personnes ont besoin de médicaments, ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est que s'ils ont besoin de médicaments, c'est qu'ils souffrent. Et souvent, quand on commence à devenir très anxieux, vers 40, 50 ans, 60 ans, ça peut être un mode de début de la maladie. Et donc, il faut traiter l'anxiété, il faut traiter la dépression, et il ne faut pas considérer que ces traitements soient systématiquement dangereux ou mal appropriés. Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait systématiquement traiter toute petite tristesse passagère de la vie. Bien sûr que non. Parfois, il n'est pas nécessaire de recourir à des traitements. Mais je pense que le procès de dire qu'on traite trop les patients et leur trouble psychologique, est un mauvais procès. La France est un très grand pays, on a la chance d'avoir un système de santé qui est très bon, et je pense que si on prescrit beaucoup de traitements en France, c'est parce que justement, en France, on peut permettre aux patients d'avoir des traitements qui les soulagent.
Alors, par rapport à ces traitements, parfois, il y a un peu de flou sur quelle est la réelle maladie du patient, et si on lui donne des médicaments indiqués pour telle maladie, et qu'en fait, il a d'autres maladies, ou d'autres, d'autres problématiques. Est-ce que ça risque pas de lui nuire, en fait?
Non, il faut, je pense, surtout bien éduquer les personnes et expliquer, par exemple, que là, maintenant, on traite beaucoup l'anxiété avec des antidépresseurs, mais c'est parce que le terme antidépresseur est mal approprié, parce que ce sont des traitements qui augmentent la sérotonine dans le cerveau, et ces traitements-là peuvent être très utiles à la fois pour traiter la dépression, pour traiter l'anxiété, pour traiter la migraine, pour traiter d'autres symptômes. Et donc, je pense qu'en expliquant bien aux personnes pourquoi ils prennent le traitement dans combien de temps, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose plus de problèmes, c'est que lorsqu'on administre un traitement à une personne, il faut déjà anticiper combien de temps on va le traiter et d'essayer peut-être plus tard de l'arrêter pour voir s'il en a toujours besoin. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prescrire, mais il faut surtout déprescrire et donc savoir arrêter des traitements qui n'ont plus d'utilité au bout d'un certain temps.
Alors, le médecin de la famille, on va dire, d'une manière générale, est-ce qu'il est bien formé à ça? Parce que lui, il a surtout la visite de représentants d'entreprises pharmaceutiques, etc., même s'il se forme bien sûr parallèlement également. Est-ce qu'il est bien au fait des progrès peut-être réalisés, de comment on peut traiter peut-être mieux qu'avant tel type de maladie et comment on les distingue les unes des autres? On pourrait parler d'Alzheimer, etc., aussi, parce que ce sont des maladies qu'on retrouve presque au même âge. Est-ce que le spécialiste est la personne tout indiquée pour réellement définir le diagnostic?
Oui, vous avez raison. C'est le rôle d'un médecin généraliste est un rôle fondamental. Il est en première ligne. C'est un métier compliqué, c'est un métier difficile. On est sans cesse challenger sur des nouveaux diagnostics, des nouvelles choses, et il est impossible actuellement pour quiconque de connaître toute la médecine. Donc il est vrai que le médecin généraliste doit avoir un réseau d'experts sur lesquels il peut s'appuyer pour adresser les patients afin que des doutes diagnostiques puissent être levés et qu'ainsi les diagnostics et les traitements favorables puissent être mis en place. C'est donc un véritable réseau qui doit être mis en place. Il existe en France, mais je trouve qu'il n'est pas encore toujours assez efficient. Et on y travaille d'ailleurs avec des réseaux de médecins généralistes pour améliorer encore ceci. Bon, il y a la place pour un médecin généraliste, il y a la place pour un médecin en ville, il y a la place pour un médecin référent à l'hôpital et un médecin référent qui soit un expert international de la maladie. Et en fonction de la sévérité, des difficultés, eh bien, chaque personne dialogue entre elles dans l'intérêt du patient. C'est ce qu'on appelle le parcours de santé.
Alors, monsieur David DeVos, je rappelle que vous êtes professeur de pharmacologie médicale et neurologue à l'Université de Lille, INSERM, au CHU de Lille, etc. Donc, est-ce que le fait d'être sur Lille, ça vous donne un poste d'observation particulier, notamment par rapport au traitement des gens de la région Hauts-de-France, par exemple? Est-ce qu'on est, on parle souvent parfois, je vais pas dire d'un désert, mais d'un manque de soins de médecins ou de gens qui ont des problématiques importantes, plus peut-être que d'autres à soigner. Comment vous voyez cet équilibre en région Hauts-de-France?
Je pense que nous avons un bon rayonnement, en tout cas national, grâce à un réseau. Maintenant, nous fonctionnons au réseau, donc on ne peut pas déconnecter la région Hauts-de-France de l'ensemble de la France. Et donc, il y a 19 centres, une petite vingtaine de centres référents, experts de la maladie de Parkinson en France, dont le centre de Lille, qui va donc recevoir les cas les plus difficiles ou les personnes jeunes qui ont la maladie de Parkinson dans son centre ou donner des conseils ou des conférences pour les autres villes de la région de France. Donc on est très connectés entre nous. De même au niveau international aussi, nous sommes dans une conférence qu'on appelle des mouvements anormaux. Et donc là aussi on est très connectés. Donc on est très au courant grâce au niveau médias et bien de toutes les avancées qui sont faites. Le centre de Lille est aussi très actif en termes de recherche. On a notamment on pilote un grand essai thérapeutique européen de neuroprotection dont on a parlé tout à l'heure, qui est un traitement par chélation de fer, c'est-à-dire on va diminuer le fer qui est en surcharge dans la zone qui dégénère, dont on a parlé juste avant, la substance noire. Le fer est important parce que le fer permet de fabriquer un petit transmetteur chimique qui est la dopamine. Mais le fer est aussi important parce qu'il permet de fabriquer l'énergie, parce qu'il fixe l'oxygène. Mais lorsqu'il est en excès, le fer peut conduire à ce qu'on appelle du stress oxydant, comme si un petit peu il rouille les cellules, il détruit les cellules. Et donc, l'objectif est qu'avec un traitement par la bouche, eh bien, une petite molécule va capter ce fer en excès et le redistribuer dans le corps. On a inclus à peu près 300 patients au niveau européen. Il y a 8 pays qui participent à cette étude qui est coordonnée par Lille. Et on espère que d'ici quelques mois, nous terminons l'étude avec 368 patients pour peut-être démontrer, si on avait la chance, que c'était un premier traitement neuroprotecteur au monde et qui sera donc probablement dans le futur une combinaison de plusieurs traitements. Mais en tout cas, ce premier traitement-là pourrait être la première stratégie.
Donc je reviens sur l'échelon régional. Hein. Est-ce que la région est bien irriguée en médecins spécialistes?
Oui, la région est relativement bien irriguée, mais encore qu'il reste des déserts médicaux dans les régions Hauts-de-France. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un maillage pour pallier justement à ces difficultés. Il est vrai qu'on a, à Lille notamment, on reçoit des patients qui viennent de la Vénois ou de la Côte parfois, parce qu'ils sont un peu plus loin et n'ont pas toujours accès à des médecins spécialistes proches de chez eux. Donc je ne dirais pas que la situation est idéale, loin s'en faut. Je pense qu'il faut continuer à attirer des jeunes médecins dans la région Hauts-de-France, mais elle n'est pas non plus désastreuse vis-à-vis d'autres régions de France.
Comment se fait l'information des médecins, la sensibilisation des médecins, voire même des familles qui ont des membres qui ont ces problèmes? Donc comment ils peuvent aussi accompagner au mieux les patients?
Alors là aussi, voilà, il y a les choses changent aussi. Ce qui est important, c'est que on éduque beaucoup les personnes, à la fois les patients, mais aussi leur famille, pour expliquer ce que c'est qu'une maladie de Parkinson, comment gérer son traitement. On se base sur un réseau de médecins, je le disais à l'instant, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, mais aussi sur des associations. L'association France Parkinson, par exemple, est l'association la plus importante en France, qui est très dynamique, et des jeunes personnes ont repris le flambeau pour les régions de France, pour justement animer ces associations, organiser des débats, organiser des cafés de débats pour les patients qui sont plus jeunes, organiser des conférences pour d'autres patients, pour les informer. Mais aussi, on a des congrès. Bientôt, le congrès de neurologie va se tenir à Lille la semaine prochaine et on y parlera justement de la maladie de Parkinson notamment.
Voilà, donc on peut dire que plutôt que d'aller sur Internet, sur des sites qui peuvent être douteux parfois, peut-être on peut donner la ressource de cette association pour avoir des témoignages et puis des conseils de gens qui ont peut-être eu affaire à ces difficultés et qui ont un témoignage par rapport à ça, plutôt que d'aller un peu à la chasse aux fake news.
Vous avez tout à fait raison, beaucoup de patients ou de personnes... des conjoints ou des personnels même atteints de la maladie vont sur Internet et tombent sur les visions les plus horribles parce que forcément, ce qui va intéresser et attirer les gens sur Internet sont soit des situations désastreuses, catastrophiques et qui ne représentent pas la vie classique des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Il est préférable d'aller dans des sites dédiés à la maladie de Parkinson, des associations, vous venez d'évoquer France Parkinson, dont le site est très bien fait, qui sont toujours à l'écoute avec des numéros d'appel pour avoir tous les renseignements nécessaires. Aussi, je conseille d'aller vers les personnes référentes, soit son neurologue, soit les centres référents, les centres experts, comme celui de Lille, pour avoir tous les renseignements concernant la maladie de Parkinson. Un type, par exemple, de fake news dont on évoquait, c'est justement la dangerosité des traitements à base de dopamine, ce qui est faux parce que avant les traitements par dopamine, les personnes mouraient relativement tôt de la maladie de Parkinson, alors que maintenant, nous ne mourrons pas de la maladie de Parkinson grâce à ces traitements dopaminergiques. Donc, ça fait partie, justement, des informations stupides qu'on retrouve sur Internet.
Voilà, eh bien, on en sait un peu plus sur cette maladie qui est encore mystérieuse, monsieur De Vos.
Oui, on travaille jour et jour, jour après jour, pour qu'elle le soit de moins en moins. Et on se base aussi sur des innovations thérapeutiques fortes, à la fois pour mieux traiter les personnes au quotidien, pour tous les symptômes moteurs, mais aussi non moteurs, et aussi pour essayer de développer des traitements qui puissent ralentir la progression de cette maladie.
Bien, merci beaucoup pour votre intervention. J'espère qu'elle aura été utile à nos auditeurs. Donc, référence, hein, donc le site de l'association dont on vient de parler. On peut rappeler le nom ?
France Parkinson.
Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.